Je vais vous proposer la fin du livre du prophète Agée. Nous sommes au chapitre 2. Ce sont les derniers versets 20 à 23. Nous aurons lu comme ça tout le livre. Et j'espère que ça vous a encouragé à et ça vous a peut-être réconcilié avec ces petits prophètes que on connaît si peu, que l'on néglige, alors que je crois qu'il y a beaucoup d'actualité, il y a beaucoup de richesse. La parole de l'Éternel fut adressée pour la deuxième fois à Agée, le 24e jour du mois, en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit, j'ébranlerai les cieux et la terre. Je renverserai le trône des royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Depuis le début du livre, c'est un leitmotiv qui revient, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées. C'est Dieu qui parle, ce Dieu grand, puissant, ce Dieu qui dirige l'univers. Ce Dieu qui conduit les peuples, qui conduit le temps, qui conduit les circonstances. Et cette fois-ci, Dieu s'adresse pour la deuxième fois à Agée, tiens. Mais oui, si je regarde au verset 10, c'est la même date. Dieu a donné un message général, souvenez-vous, sur la sanctification et le péché. Maintenant, il communique d'une manière plus particulière concernant un homme, Zorobabel. Je regarde dans ce livre et je m'aperçois qu'il est marqué par plusieurs personnages. Vous avez le prophète Agée, bien sûr. Puis vous avez Zorobabel. Vous avez Josué. Et ensuite le peuple. L'accent est mis ici sur Zorobabel. On laisse de côté le peuple. On laisse de côté Josué. Un peu dommage, n'est-ce pas, que Dieu laisse de côté Josué. On dirait même que ce n'est pas juste. Regardez le chapitre 3 du livre suivant, Zacharie. Et là, on met l'accent sur Josué. L'un a son ministère d'un côté, l'autre a son ministère de l'autre. Dieu a un plan pour l'un, Dieu a un plan pour l'autre. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas d'une telle manière à celui-là qu'il le néglige. Il a un plan pour lui. Et quand je regarde ce que Dieu dit à Josué, c'est quand même formidable. Vous êtes d'accord qu'on lise quelques versets de Zacharie, chapitre 3, simplement pour nous, pour voir un peu ce que Dieu va dire. La vision de Zacharie. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu ?» Or, Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité. Je te revais d'habits de fête. Et je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là, et l'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordres, tu jugeras ma nation, ma maison, et tu garderas mes parvis, je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. L'expérience que Josué va connaître en tant que souverain sacrificateur est l'expérience que chacun de nous, nous devons connaître. Nous sommes devant le Seigneur. Et comment sommes-nous? Comment est-ce que le Seigneur nous voit? Avec des vêtements sales. Pourtant, Josué est le souverain sacrificateur, le type même de l'homme qui doit manifester la sainteté de Dieu. C'est notre mission aussi. On n'est pas toujours très propre, n'est-ce pas? Et Satan en profite. Satan en profite pour nous démolir, pour nous accuser. Et quand il nous démolit, quand il nous accuse, là, il n'est pas toujours menteur, hein. Il a raison. Combien on a besoin d'être purifié. Combien on a besoin d'être lavé, d'être nettoyé, d'être débarrassé de nos vêtements sales pour être couvert de vêtements de fête. Je pense à un homme que Jésus a rencontré, un homme qui habitait Jéricho, Bartimée. Vous vous souvenez de Bartimée? C'était un mendiant. Il était aveugle. Il était à la sortie de la ville. Toute sa vie, c'était la charité, s'il vous plaît, madame. La charité, s'il vous plaît, monsieur. Il vivait comment? Au bord de la route. On pouvait passer. Il y avait le sable, il y avait la poussière, il y avait les saletés. Et quand il apprend que Jésus va passer, que fait-il? Il crie, c'est Jésus, fils de David, aie pitié de moi. On va le faire taire. Et Jésus entend, et Jésus dit, appelez-le. Les gens sont venus tout près de Bartimée. Lève-toi, il t'appelle. Quel est le premier geste que Bartimée a fait? Il a jeté son manteau. D'un bond, jetant son manteau, il se lève. Le manteau d'un mendiant, pas très brillant, pas très propre, hein. Pas très beau, le manteau d'un mendiant. Mais il s'en débarrasse, Jésus l'appelle. Il va retrouver la vue. Vous savez, il y a une image formidable avec le manteau. Une image formidable avec le vêtement. Vous vous souvenez quand Jésus a été arrêté? Qu'est-ce qu'on a fait? On lui a mis un manteau. Il a pris sur lui notre péché. Il a pris sur lui nos crasses, nos saletés, notre souillure. Il a tout porté. Nous pouvons être blanchis, lavés, nettoyés. C'est fabuleux cela. Et le prophète Ésaïe dira, « Il m'a revêtu d'un habit de fête. » C'est comme ça que Dieu nous voit ce matin. Ou il nous voit sales, ou il nous voit avec un habit de fête. Et nous pouvons bénir Dieu pour sa purification, pour ce qu'il a fait. C'est l'expérience de Josué. Ce n'est pas l'expérience de Zorobabel. Zorobabel va faire une expérience différente. Je vous l'ai dit, il intervient, il est gouverneur de Juda. Il est le petit-fils du roi qui a été déporté, Josachin. Il porte d'ailleurs un nom bizarre, Zorobabel. C'est pas Zoro est arrivé. Zorobabel, le fils de Babylone, le rejeton de Babylone. Il a un autre nom, un nom hébreu, Shebatsar. Mais la Bible le présente surtout comme le rejeton de Babylone. Nous sommes quelque 500 ans avant la venue de Jésus. Il est revenu, lui, Zorobabel, avec Esdras. On l'a lu, vous vous souvenez, il fait partie de ce premier contingent des déportés. Il était là, à l'œuvre. Il a eu l'esprit réveillé quand Agé a donné son premier message. Il y avait un message pour lui. Et il s'est lancé. Il s'est mis au travail. Il a bénéficié des promesses de Dieu. Il a joui de tout ce que Dieu donnait. Et puis maintenant, brusquement, dans le livre, les trois derniers versets de ce chapitre 2 mettent l'accent sur cet homme. Quand même bizarre, cela. Dieu va prendre Zorobabel et il va l'associer aux événements futurs. Il va prendre Josué. Et il va l'associer aux événements futurs, au travers de Zacharie. Chacun a son ministère, chacun est impliqué dans le plan de Dieu. Nous sommes devant Dieu. Nous avons été appelés, nous sommes nés dans le monde. Nous sommes les fils dans ce monde. Puis Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à le suivre. Il nous appelle à le servir. Il nous appelle à entrer, et puis il nous met dans la confidence et nous dit, « Mais tu vas collaborer avec moi. Tu fais partie de l'équipe. Je t'incorpore dans mon œuvre. » Et on est étonné de voir que Zorobabel est associé au plan de Dieu et à ce que Dieu va faire. Dieu le met au courant et lui dit, voilà ce que je vais faire. Je vais ébranler les cieux et la terre. Je vais tout bouger. Et il va faire des promesses. Je renverserai les trônes, le trône. Je vais faire ceci, je vais démolir, je vais détruire, je vais renverser. Certains pensent que c'est simplement pour les différentes nations qui étaient là, comme les Perses, ou les Grecs, ou les Romains, les différents empires. Mais ça va beaucoup plus loin. La vision que Zacharie reçoit, c'est une vision à long terme, sur la fin des temps. C'est une vision que Josué, de son côté, va partager, que les autres prophètes, ces petits prophètes, ont annoncé avec leurs mots à leur époque. Dieu est le maître de l'histoire. Dieu est le maître des nations. Et c'est Dieu qui aura le dernier mot dans ce monde et dans cet univers. Nous sommes dans la crainte aujourd'hui, en voyant les événements, en lisant les journaux, en regardant un journal télévisé. Mais où est-ce qu'on va? Dieu conduit les choses et il va tout renverser. Il va tout ébranler. Et Zorobabel va devenir participant dans l'œuvre de Dieu. Il le met au courant. Mais Dieu nous a mis au courant de ce qui allait arriver. Nous le savons. Il nous a mis aussi dans la confidence. Et il veut nous incorporer dans son plan. Vous et moi, nous faisons partie de cette équipe aujourd'hui. Dieu nous met dans cette confidence. Et puis, il va jouer Dieu sur deux tableaux. D'abord, il va parler avec Josué en tant que personne. Dieu s'intéresse à notre personne. Et en même temps, Dieu s'intéresse à l'histoire du monde, à la grande histoire, l'histoire avec un grand H. Il y a des choses qui sont simplement à épingler. Et je voudrais juste épingler deux ou trois petites choses. J'ébranlerai les cieux et la terre. C'est un mot bizarre, ébranler. Vous savez quand est-ce que la Bible en parle? Quand elle parle de la destruction de Sodome et Gomorre. Ébranler, un ébranlement. C'est la destruction. Et on sait très bien que la terre et les cieux vont être ébranlés. Ils vont connaître exactement le même jugement que du temps de Sodome et de Gomorre. Ce que je remarque aussi, c'est que si Dieu va renverser, il y aura une guerre fratricide. Ils vont se détruire les uns les autres, l'un par l'épée de l'autre. Vous savez que c'est quelque chose qui revient dans le livre d'Ézéchiel, ou dans le livre de Zacharie, où les uns porteront l'épée contre les autres. Regardez la nation aujourd'hui, hein. Qu'est-ce qui se passe? Cette nation-là contre celle-là. On est alliés et on a chacun l'épée pointée vers l'autre, vers les alliés. C'est incroyable. Simplement ce qui se passe au niveau des États-Unis ou de la Russie aujourd'hui, de la Chine, de l'Inde par rapport à l'Europe. On est dans une histoire où les nations se tournent les épées les uns contre les autres. Et Dieu prépare les nations vers une guerre mondiale, Armageddon, et remarquez là encore ce que Dieu dit. Je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus. Ça fait penser à quoi? Bien sûr, les chevaux, les chars, les cavaliers, c'était les armées de l'époque. Aujourd'hui, nous avons des autres chars, hein. On a des chars de guerre qui sont autrement plus forts. Au point de vue technologique, c'est extraordinaire ce que l'homme a pu inventer pour détruire. Mais savez-vous comment on appelle certaines armées, ou certaines divisions de chars? La cavalerie. C'est le nom qu'on donne. Ce sont les cavaliers. Ils conduisent des chars et c'est la cavalerie. Il me semble qu'il y a quand même des choses qui sont là et qui nous disent, oui, Dieu est le maître de l'histoire, Dieu conduit, mais une petite perle, le verset 22. Je renverserai, quoi ? Le trône des nations. Bah, bien sûr, on lit cela. Oui, Dieu va détruire la force des royaumes. Hein, les États-Unis, la Russie, tous les pays. Bon, mais vous avez remarqué, le trône. Dieu ne voit qu'un seul trône qui doit être renversé. C'est le trône de Satan. Ce trône de l'adversaire qui dirige apparemment toutes les nations. Le trône des nations, le seul trône des royaumes. Toutes ces nations sont soumises à qui ? Au prince de ce monde aujourd'hui. Vous pouvez regarder, on a des hommes politiques, des femmes politiques qui se veulent très honnêtes. Ils le veulent. Ils veulent être sincères. Mais la politique est pourrie, à tout niveau. Pourquoi ? Parce qu'elle est faite par des hommes qui sont conduits par l'adversaire. Les nations sont conduites par l'adversaire. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça marche bien au niveau des hommes. Ça ne peut pas marcher, que ce soit dans le domaine de la politique, que ce soit dans le domaine de l'économie. Tout simplement parce que au-dessus de tous les trônes, de tous les royaumes, il y a le trône de Satan. Et le combat ne devient pas seulement un combat contre les hommes, mais c'est un combat spirituel entre Dieu et l'ennemi, entre Dieu et l'accusateur des frères. Et Zorobabel est mis au courant, il entre dans la confidence, Dieu le met dans la confidence et lui dit, voilà ce que je vais faire. Voilà ce qui va arriver, Zorobabel. 500 ans avant Jésus-Christ, il annonce des choses qui vont arriver. Oui, mais Zorobabel... Il a un rôle important. Il a un rôle important parce que il est de la lignée de David, à qui Dieu a fait des promesses, la promesse d'une alliance. David et Zorobabel, c'est pas seulement le rejeton de Babylone, c'est un descendant de David. Il entre dans cette lignée de la promesse de Dieu et du plan de Dieu. Et chose étonnante, quand je lis l'évangile selon Matthieu, et que je regarde le chapitre 1, le verset 12, c'est pas difficile, Matthieu 1, 12, on a la généalogie, ça semble toujours fatigant les généalogies, n'est-ce pas ? Un tel engendra, vous me direz que les histoires de famille, ça ne nous regarde pas, mais regardez bien verset 12, « Après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Salathiel engendra Zorobabel. » Zorobabel entre dans la lignée de Jésus. Il est dans cette lignée-là. Il est une des réalisations de la promesse et du plan de Dieu. Et vous et moi, nous sommes dans cette lignée. Nous sommes les enfants du Seigneur. Nous sommes incorporés dans le plan de Dieu. Nous faisons partie de cette lignée des ouvriers avec Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi être émerveillé de voir un Dieu si grand qui met des petits bonhommes dans la confidence et qui place les hommes dans son plan? Moi, j'aimerais vous dire, et il y a des gens qui disent, pourquoi est-ce que je suis venu au monde? J'ai pas demandé pour venir, je suis misérable ici. Nous sommes dans le plan de Dieu. Nous ne sommes pas des accidents. Dieu a voulu que nous soyons là. C'est un cadeau qu'il nous fait de nous donner la vie. Et il a voulu qu'on soit là. Si vous croyez que vous êtes un accident, détrompez-vous. Vous êtes dans le plan de Dieu. Vous êtes dans cette lignée que Dieu veut pour accomplir son plan. Mais en même temps, il lui dit, tu sais, Zorobabel, je voudrais que tu te rappelles une chose. Les promesses sont vraies. Ce que Dieu a promis à David, il le réalise. je voudrais vous lancer un défi. Trouvez-moi un exemple où Dieu a menti. C'est le bonus, hein? Mais Dieu n'a jamais menti. Nulle part, il est vérité. C'est un point extraordinaire, c'est une encre pour notre foi. Notre Dieu ne ment pas. Notre Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Ses alliances sont vraies. Nous venons de participer à la table. C'est quoi la Sainte Cène? C'est le rappel de l'alliance que Dieu a faite. Dieu n'a pas besoin de la Sainte Cène pour se rappeler ce qu'il a promis, mais moi j'en ai besoin. Nous avons besoin de nous rappeler ce que Christ a fait. Mais lui, il ne renie jamais son alliance. La Bible dit que les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Cela, c'est une vitamine pour notre vie chrétienne. Dieu l'a dit. Vous pouvez faire ce que vous voulez, il l'a dit, c'est vrai. Et les promesses qu'il fait pour l'univers, pour le monde, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Prenez les promesses de Dieu, appropriez-vous ces promesses. Prenez-les pour vous-même. Seigneur, tu l'as promis, j'y crois, c'est fini. Combien nous serions dans la paix, dans la sécurité, si on saisissait les promesses de notre Dieu. Les promesses de Dieu sont vraies. La deuxième application que je vois, c'est que Zorobabel, finalement, il n'entre pas seulement dans la lignée du plan de Dieu, mais il devient lui-même un type de Jésus-Christ. Comme Moïse a été un type de Jésus-Christ. Comme Joseph était un type de Jésus-Christ. Et Dieu lui dit, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur. Pourquoi mon serviteur? Qui a été appelé le serviteur dans l'Ancien Testament? C'est Jésus. Ésaïe déclare que Jésus est le serviteur par excellence. Il est le serviteur parfait. Et Jésus dira plus tard que le Fils de l'homme est venu non pour servir, mais pour, non pour être servi, mais pour servir. Il est important de se rappeler cela. Nous sommes au service de Dieu. Dieu nous prend à son service. Considérons-nous comme ses serviteurs. Je te prendrai mon serviteur. J'ai besoin de me rappeler cela. Je pense Ésaïe 42. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. Et là encore, je retrouve cette notion de donner du plaisir à notre Dieu. Notre service peut donner du plaisir à notre Dieu. Notre état de serviteur. Voici mon serviteur, dit Ésaïe 52. Mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Ensuite, le texte annonce ses souffrances. Le serviteur souffrant. Le serviteur qui est venu pour servir. Nous sommes des serviteurs. Et Dieu nous appelle à son service. Si vous ne savez pas que faire de vos minutes qui restent, mettez-les au service de Dieu. Si vous ne savez pas que faire des heures qui restent, mettez-les au service de Dieu. Gardons aussi l'esprit de serviteur. Seigneur, c'est formidable. Vous vous souvenez de ce pharisien, hein? Seigneur, je fais ceci, je fais cela. Formidable. Il est là devant Dieu. Seigneur, tu devrais être fier d'avoir quelqu'un comme moi dans ton église, hein? Combien souvent l'orgueil nous prend parce qu'on a fait quelque chose pour Dieu. Gardons l'esprit de serviteur. Nous sommes au service de Dieu. Quand nous avons fait ce que nous devions faire, nous n'avons rien fait d'extraordinaire. On a fait ce que le Maître demandait et voulait. Et je crois qu'il est bien que dans nos églises, nous rappelions la nécessité de garder un esprit de serviteur. C'est pas toujours le cas. Souvenez-vous que dans un arbre, ce sont les branches qui donnent le plus de fruits qui portent vers le bas. Et plus nous allons porter du fruit, plus nous allons aller vers le bas. Souvenons-nous simplement de ça. Seigneur, je ne suis qu'un serviteur inutile. Mais il y a aussi non seulement l'esprit de serviteur, non seulement la réalisation des promesses, mais c'est quand même formidable que Dieu lui dise « Je te garderai ». Le monde va mal. Je vais renverser les cieux et la terre. Je vais tout bouleverser. Je suis le maître et je vais remettre les choses à leur place. Mais je te garderai. Tu n'as pas à avoir peur. Je te garderai. Tu n'as plus rien à craindre. Je te garderai. Mais c'est quand même extraordinaire, ça. Est-ce que vous ne croyez pas que ce genre de parole que Dieu donne devient quelque chose d'important pour Zorobabel et pour nous aussi? Mais je te garderai comme un sceau. Et là, nous trouvons un objet bizarre. Je te garderai comme un sceau parce que je t'ai choisi. Si on parlait un petit peu d'un sceau, qu'est-ce que c'est un sceau? C'est une marque. C'est une marque où on met de la cire. C'est une marque en général, et dans l'histoire et dans l'Antiquité, le sceau avait énormément de valeur. Beaucoup plus qu'à notre époque. À notre époque, quand on met les scellés, c'est la police qui dit « n'allez pas plus loin hein ». Ou alors quand on a, j'ai assisté à un dépouillement dans les Vosges, alors quand on a tout calculé, qu'on a tout fait, on ferme, on met une ficelle, on met le sceau dessus, ne plus bouger, on pourrait se tromper, hein. Alors, ça pourrait faire des histoires. Non, c'était un objet important, un objet de valeur. C'était un objet précieux. C'était un objet d'attention, un objet d'honneur. Une marque d'honneur, parce que le sceau, au départ, donnait l'empreinte du roi, l'empreinte du propriétaire. Et le sceau est assez particulier parce que on pouvait le mettre à son doigt, à son bras, à son cou. Comment cela? Mais oui, on peut tout. Lisez la Bible dans Genèse 28, on nous le montre. Et puis vous connaissez Cantique des Cantiques 8:6. Mets-moi comme un sceau sur ton bras, comme un sceau sur ton cœur. Le sceau qui marque la marque du propriétaire. Sur le bras pour les activités. Sur le bras pour les actions. Sur le cœur pour les sentiments. C'était aussi la marque de la volonté. Voici mes dernières volontés. Voici ce que je veux. On cachetait, on mettait le sceau. Ça, il fallait respecter la volonté de celui qui avait écrit. C'était une obligation. Et Dieu dit à Zorobabel, tu es un sceau. Tu as l'empreinte du roi. Et dans ce sens, il est aussi un type de Jésus. Le livre de l'Épître aux Hébreux commence par nous dire que Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. Il est le sceau de Dieu. Et vous et moi, nous avons la marque de Dieu. Nous sommes le sceau de Dieu. Et l'ambition de Dieu, vous savez quelle est l'ambition? Il a une ambition formidable. Il y a une femme qui avait deux enfants, une femme juive. Deux petits bouts, 2 ans et 3 ans. Et quand on a dit, et tes enfants, ça va? Bien, l'avocat, il a 3 ans, et le médecin, il en a 2. On avait déjà le plan. Elle avait déjà une vision pour ses enfants. Dieu a une vision pour nous. La vision de Dieu, c'est quoi? C'est que nous ressemblions à son fils, Jésus. Il nous a appelés à être semblables à Christ. Et il a placé le sceau de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies. Nous avons la marque de Dieu, son empreinte. Mais nous avons aussi la manifestation de sa volonté. Alors, c'est ce qu'il dit à Zorobabel. Et pour nous chrétiens, en 2016, 2 Corinthiens chapitre 1 verset 22. Il nous a aussi marqués d'un sceau et il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Si Dieu nous a marqués d'un sceau, c'est pour que nous ressemblions à Jésus. Si Dieu nous a marqués d'un sceau, c'est parce que nous lui appartenons. C'est le mien. Tu m'appartiens. Le diable peut vous réclamer. Dieu dit non. Je vais vous raconter quelque chose. La première fois que j'ai rencontré ma celle qui allait devenir ma femme, c'est assez étonnant, on s'est rencontrés en faisant la vaisselle. C'est ça que maintenant, ne faites plus la vaisselle. On s'est rencontrés en faisant la vaisselle à une convention. Et puis on a commencé à papoter, à parler, puis bon. Et puis elle était venue avec son église, ils étaient venus en quart, et dans le quart, il y avait quelques jeunes. Et puis après cette rencontre, bon, on a parlé, premier contact, quoi. Et je demande à un des jeunes qui était là, « Qui c'est cette fille-là? Tu la connais et tout ?»« Bouge pas, chasse gardée, c'est à moi !» Bon, ben, chasse gardée, j'ai plus bougé. Jusqu'au moment où j'ai appris qu'il y avait lui qui pensait cela, qu'elle n'était pas au courant. Enfin, c'était autre chose. Mais, vous voyez, Dieu dit, chasse gardée, on ne bouge pas. Tu m'appartiens. Tu es à moi pour toujours. Nous sommes sa propriété et nous avons la preuve. Il nous a donné les arts de l'esprit. Ça, c'est la preuve, c'est la marque que nous allons hériter avec Christ. Nous sommes devenus héritiers avec Christ. Vous voulez que je m'en fasse pour un petit bout de terre de quelques arts et que je me batte? J'ai la terre entière. Suffit d'attendre. On a l'univers. Nous sommes co-héritiers de Christ, mais tout est à vous. C'est pas vrai, mais si. C'est pas moi qui le dis, c'est Christ. Nos richesses, elles sont spirituelles, elles sont célestes. Éphésiens 1, 13. En lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis afin de célébrer sa gloire. Dieu nous a scellés de son esprit. Je te garderai comme un sceau. Et il nous a scellés de son esprit, pourquoi? Pour célébrer sa gloire. Mais c'est ce que nous voulons, n'est-ce pas? Lui donner de la joie, lui donner du plaisir. Seigneur, nous faisons les choses pour ta gloire. Mais ça commence avec nous. Ça commence par notre vie. Ça commence aujourd'hui. Ça commence maintenant. Et c'est pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous voyez ce qu'il a dit à Zorobabel, il nous le dit à nous, avec d'autres mots, mais c'est la même chose, c'est la même promesse. Zorobabel, tu rentres dans mon plan, tu es dans la lignée de Jésus, tu travailles avec moi. On va de l'avant. Aujourd'hui, Dieu te le dit, à ton nom, prends ton nom, tu travailles, tu es dans la lignée de Jésus, tu es dans le plan, tu travailles, tu vas de l'avant, et tout doucement, je vais te transformer, dit Dieu, pour que tu sois à l'image de Jésus. Tu as l'empreinte du Fils de Dieu, dans ton cœur, dans ta pensée, dans ta vie. Nous avons des cantiques, te ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême. Voilà, c'est dans le plan de Dieu. C'est dans sa pensée. Je te garderai. Et c'est formidable que Dieu va nous garder pour ça. Et ceci va nous amener alors à reconsidérer une fois encore nos voies. Nous sommes, vous et moi, édifiés pour bâtir un temple. Non pas le temple de Jérusalem. Celui-là, pour nous, n'a plus d'importance. Mais nous sommes participants dans la maison de Dieu. Nous sommes devenus des ouvriers avec Dieu. Nous sommes édifiés pour être la maison de Dieu en esprit. Ayez la vision de l'Église de Jésus-Christ. Ayez cette vision grande de ce que Dieu est en train d'accomplir. Et nous sommes dedans. Nous sommes incorporés dans une œuvre qui est éternelle. Dans le grand plan que Dieu a pour l'humanité, pour le monde. Est-ce que vous ne croyez pas que ça vaut la peine de supprimer certains films, de supprimer certaines émissions de télévision? Est-ce que vous ne croyez pas que ça vaut la peine d'arrêter de faire certaines choses qui ne servent à rien pour consacrer du temps dans l'œuvre de Dieu? Retrouver nos priorités. Messire Dieu, d'abord servi. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses qui nous encombrent, qui sont là et qui sont nécessaires ou qui sont bonnes, elles nous seront données par-dessus. Il me semble que Agée a quelque chose à dire à l'homme d'aujourd'hui. Il me semble que si nous prenons la peine de retrouver la lecture de la parole de Dieu, de ces vieux livres qui nous semblent embêtants, on va retrouver du tonus pour avancer. Que Dieu nous aide dans ce sens.